Je me souviens de compagnons de lutte, dont tous, sauf nous, ont oublié le but, mais qui sont distillés dans chaque blessure subie. Chaque cicatrice est un lieu d'agonie, où nous combattîmes sans gloire, guerre non désirée, bataille sans espoir. Qu'avons-nous payé là? Qui avons-nous acquis? Chant de la dispersion. Burt Smalley fondait sa stratégie sur les leçons apprises au contact de son ancien Bachar. Il ne s'ouvrait à personne des options multiples et des positions de repli qu'il avait arrêtées à l'avance. Prérogative de commandant. Cela supposait naturellement une connaissance préalable du terrain aussi parfaite que possible. À l'époque de l'ancien empire, et même sous le règne de Muad'Dib, toute la région qui entourait la citadelle de Gameux était une réserve forestière située sur de hautes terres isolées des résidus oléifères que l'on trouvait un peu partout en territoire Harkonnen. Sur ces terres, les Harkonnen avaient planté quelques-unes des plus fines essences de Pilingitam, un bois dont le cours était toujours élevé et que les riches appréciaient par-dessus tout. Depuis les temps les plus reculés, les gens de goût préféraient s'entourer de bois précieux plutôt que de matériaux artificiels fabriqués en série et connus dans le passé sous les noms de polastine, polas et pormabat, devenus par la suite tin, las et bat. Déjà sous l'ancien empire, un certain mépris s'attachait aux petits riches et aux maisons mineures qui ignoraient la valeur des essences précieuses. C'est un pot, disait-on pour désigner celui qui s'entourait de copies à bon marché faites dans des matériaux populaires. Même quand les très riches étaient forcés d'utiliser une des trois substances en pot, ils la cachaient, chaque fois que c'était possible, sous un plaquage en vrai Pilingitam. Burt Smalley n'ignorait rien de tout cela quand il avait demandé à ses hommes de lui trouver un Pilingitam stratégiquement situé à proximité du non-globe. Le bois de cet arbre possédait de nombreuses qualités fort appréciées des maîtres artisans. Fraîchement coupé, il se travaillait comme un bois tendre. Sec et vieux, il était aussi résistant qu'un bois dur. Il absorbait la plupart des pigments et la finition donnait l'impression qu'il faisait naturellement partie du grain. Mieux encore, le Pilingitam avait des propriétés antifongiques certaines, et nul insecte ne l'aurait volontiers choisi pour pitance. Il était ignifuge. Et chez les spécimens âgés, mais encore vivants, le tronc continuait à s'élargir démesurément autour d'un grand tube creux central. Nous devons préparer quelque chose d'inattendu, avait dit Burt Smalley à ses hommes. Au cours de sa première reconnaissance aérienne de la région, il avait déjà remarqué la couleur citron caractéristique du feuillage de cet arbre. À l'époque de la Grande Famine, toutes les forêts de la planète avaient été saccagées, mais quelques vénérables pilis avaient survécu parmi les essences dures et les espèces à feuilles persistantes replantées sous la direction des sœurs. Les éclaireurs de Burt Smalley découvrirent l'un de ces spécimens sur une hauteur dominant le site du non-globe. Son feuillage s'étendait sur près de 3 hectares de terrain. L'après-midi du jour J, Burt Smalley, après avoir fait placer des leurres à quelque distance de cette position et fait creuser une galerie dans une dépression de terrain jusqu'au cœur spacieux du Pilingitam, y avait installé son PC et le dispositif nécessaire à leur retraite. « Cet arbre est une forme de vie », avait-il expliqué à ses hommes. « Il nous rendra invisibles au détecteur. » L'inattendu. À aucun moment, Burt Smalley ne s'était imaginé que tous ces préparatifs demeureraient inaperçus. La seule chose qu'il espérait était de diluer sa vulnérabilité. Lorsque survint l'attaque, il vit qu'elle semblait suivre un schéma prévu à l'avance. Il s'était attendu à ce que les assaillants s'appuient sur leur grand nombre et sur la présence des non-vaisseaux, comme pour l'attaque de la citadelle de Gameux. Les analystes du Bene Gesserit lui avaient assuré que la plus grande menace provenait de forces appartenant à la dispersion. Des descendants du Tleilax manipulés par des furies qui se donnaient le nom d'honorés matriarches. Il voyait dans tout cela un excès de confiance plus qu'une véritable audace. La vraie audace faisait partie de l'arsenal inculqué à tous ses disciples par le Bachar Miles Tegg. Et il était heureux que l'on pût compter sur Tegg pour improviser, si nécessaire, dans les limites du plan d'action prévu. Par l'intermédiaire de ses relais, Burt Smalley put suivre la fuite mouvementée de Duncan et Lucille, tandis que des hommes à lui, équipés de casques COM et de lunettes à vision nocturne, créaient des diversions aux positions choisies comme leur. Sans intervenir à aucun moment, Burt Smalley et ses réserves d'élite suivaient pas à pas les mouvements de l'ennemi. La progression de Teg était encore plus facile à déceler grâce aux ravages qu'il faisait parmi les attaquants. Burt Smalley nota avec satisfaction que Lucille ne s'arrêtait pas en entendant s'intensifier les bruits du combat. Duncan, par contre, voulut retourner en arrière et faillit compromettre leur plan. Lucille sauva la situation en enfonçant brutalement son poing à l'emplacement d'un air sensible et en lui criant « Tu ne peux plus rien faire pour lui !» Burt Smalley jura entre ses dents en entendant la voix de Lucille amplifiée par les écouteurs de son casque. D'autres avaient dû l'entendre aussi. Ils étaient sans doute à l'écoute depuis quelque temps. Il émit un commandement subvocal par l'intermédiaire du microphone implanté dans son larynx et se prépara à abandonner son poste. Il concentrait la plus grande partie de son attention sur l'approche de Lucille et de Duncan. Si tout se passait comme prévu, ses hommes lui amèneraient bientôt le couple à domicile, tandis que deux soldats sans casque, vêtus de manière à donner le change de loin, continueraient la fuite à leur place vers les positions leurs plus haut sur la colline. Et pendant tout ce temps, Teg était en train de créer une magnifique trouée de destruction par laquelle un véhicule tout-terrain avait des chances de s'échapper. Un officier vint avertir précipitamment Burt Smalley.
Deux ennemis sont sur le point de rejoindre le Bachar.
Burt Smalley coupa court d'un geste. Il n'avait pas le temps de supputer les chances qu'il restait à Teg. Tout devait concourir avant tout à sauver le Gola. Il suivait ce qui se passait sur l'écran avec une concentration absolue.
Allons, cours. Plus vite, imbécile.
Lucille entretenait à peu près les mêmes pensées tandis qu'elle poussait Duncan devant elle, prête à tout mettre en œuvre pour protéger leurs arrières. Elle était résolue à résister jusqu'à l'extrême limite de ses capacités. Tout son conditionnement Bene Gesserit était passé au premier plan. Ne jamais renoncer. Renoncer signifiait verser toute sa mémoire consciente dans la mémoire seconde d'une autre sœur, ou bien carrément dans l'oubli. Même Shuang Yu s'était racheté in extremis en résistant jusqu'à la dernière fibre de son être. Elle était morte dans la véritable tradition du Bene Gesserit. Teg lui avait donné tous les détails que lui avait rapporté Burt Smalley, et Lucille, rassemblant les vies sans nombre dont elle était la dépositaire, se disait « Je ne peux tout de même pas faire moins ». Elle suivit Duncan au creux d'une légère dépression de terrain entourant le tronc d'un Pilingitam géant, et quand des ombres jaillirent des ténèbres environnantes pour les plaquer au sol, réagit comme une furie au moment même où une voix murmurait « Ami » à son oreille en Tchakopsa. Cela la freina l'espace d'un battement de cœur et lui permit d'apercevoir les leurs qui continuaient leur fuite vers le haut de la colline. Plus que l'emploi du Tchakopsa, cela lui confirma les plans et l'identité de ceux qui les maintenaient plaqués contre les riches senteurs de terreau. Lorsque Duncan et elle furent poussés vers un boyau orienté vers le centre de l'arbre géant, et lorsqu'on leur recommanda, toujours en Tchakopsa, de ne pas trop traîner, elle fut définitivement certaine de figurer au cœur d'une action d'audace tout à fait dans le style de Teg. Duncan l'avait compris aussi. À l'entrée du boyau obscur, il l'identifia à son odeur et tapa sur son bras un message dans l'ancien langage de guerre muet des Atréides. « Laissons-nous conduire. » La forme du message la surprit tout d'abord, jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'il était parfaitement naturel que le Gola, avec sa nouvelle personnalité, connaissent ce moyen de communication. Sans dire un seul mot, ceux qui les entouraient prirent à Duncan l'antique laser qui l'encombrait et poussèrent les fugitifs à l'intérieur du sas d'un véhicule que Lucille fut incapable d'identifier. Au même instant, une brève lueur rouge embrasa la nuit. Burt Smalley s'adressa à ses hommes en mode subvocal. « Ils sont partis, ça y est. » 28 véhicules de surface et 11 ornies à ailes battantes s'éloignèrent lourdement des positions leurs. Excellente diversion, se félicita Burt Smalley. À la pression qu'elle ressentait dans ses oreilles, Lucille comprit qu'on venait de refermer un sas. La lueur rouge embrasa de nouveau le ciel, puis les ténèbres retombèrent. Des explosifs réduisirent en miettes l'arbre géant qui les entourait. Leur véhicule, qu'elle identifiait maintenant comme un transport blindé, surgit presque verticalement sur ses suspenseurs et ses réacteurs. Lucille n'avait pour se repérer que les éclairs des explosions et les constellations entrevues sporadiquement dans le cadre étroit des hublots de place ovale. Le champ suspenseur qui les portait rendait leurs mouvements irréels dans la mesure où ils n'étaient perçus que par les yeux. Ils étaient maintenus par des harnais dans des berceaux de plastacier, tandis que le blindé fonçait vers le bas de la colline, directement à travers le terrain balayé par Teg, en faisant de brusques écarts et en changeant continuellement de direction. Aucun de ces mouvements violents n'était directement ressenti par les passagers, qui ne voyaient que des morceaux de feuillage ou de buissons, souvent en flammes, défilant et basculant sans cesse dans tous les sens sur un fond d'étoiles scintillantes. Ils rasaient la cime des arbres qui avaient échappé au laser destructeur de Teg. À ce moment-là seulement, Lucille conçut un faible espoir de s'en tirer indemne. Abruptement, leur véhicule s'était mis à vibrer. Il ralentissait. Les étoiles visibles, délimitées par le cadre ovale des minuscules hublots de place, basculèrent et furent obscurcies par un obstacle. La gravité se fit de nouveau sentir et une lumière faible éclaira la cabine. Lucille vit Burt Smalley ouvrir une porte étanche sur sa gauche. « Descendez vite !» lança-t-il. « Pas une seconde à perdre !» Précédée par Duncan, Lucille sauta sur le sol meuble et humide. Burt Smalley lui donna une tape dans le dos, prit Duncan par le bras et les éloigna du véhicule. « Par là, dépêchez-vous !» Ils s'enfoncèrent dans des buissons qui bordaient une chaussée étroite. Burt Smalley, qui les tenait maintenant tous les deux par le bras, leur fit traverser la chaussée et les força à s'aplatir dans un fossé. Il tendit une couverture cache-vie au-dessus de leur tête et jeta prudemment un coup d'œil en arrière dans la direction d'où ils étaient venus. Lucille regarda à son tour. Elle ne vit que la lumière des étoiles sur une pente de neige. Elle sentit Duncan bouger à côté d'elle. Sur le versant au-dessus d'eux, un véhicule de surface lancé à toute allure, ses tuyères de queue modifiées visibles à la lumière stellaire, s'éloignait en crachant une courte flamme rouge. Il grimpa, grimpa, pour obliquer soudain sur la droite.
« Le nôtre ?» chuchota Duncan.
« Oui.
Comment a-t-il pu arriver là-haut sans être ?»«
Par un vieil aqueduc souterrain désaffecté, » chuchota Burt Smalley. « Il est programmé pour fonctionner automatiquement. »
Il ne quittait pas des yeux la flamme rouge qui s'éloignait en formant des arabesques. Brusquement, une énorme explosion de lumière bleutée monta en ondes concentriques de cet endroit, immédiatement suivie par une explosion sourde.
« Ah !» fit Burt Smalley satisfait.
Duncan murmura à voix basse.
« Ils sont censés croire que vous avez surchauffé vos réacteurs. »
Burt Smalley, visiblement stupéfait, jeta un étrange regard au visage du Gola que la lumière stellaire rendait gris et spectral.
Duncan Idaho était l'un des meilleurs pilotes de la flotte des Atreides,
expliqua Lucille. Ce commentaire ésotérique n'était pas lancé au hasard. Burt Smalley comprit immédiatement qu'il n'était pas seulement le protecteur de deux fugitifs. Ceux dont il avait la charge possédaient des capacités auxquelles il pourrait faire appel en cas de besoin. Des éclairs bleus et rouges rayaient le ciel à partir de l'endroit où avait explosé le véhicule piégé. Les non-vaisseaux étaient en train de renifler cette boule lointaine de gaz brûlant. Qu'allait décider leur renifleur? Une pluie d'étincelles bleues et rouges retombait derrière les versants éclairés par les étoiles. Burt Smalley tourna brusquement la tête en direction de la chaussée d'où provenait un bruit de pas. Duncan avait sorti une arme d'un mouvement si vif que Lucille étouffa une exclamation. Elle lui toucha le bras pour le modérer, mais il le dégagea d'une secousse. Ne voyait-il donc pas que Burt Smalley acceptait l'intrusion? Une voix appela doucement de la chaussée au-dessus d'eux.
« Suivez-moi, faites vite !»
Celui qui venait de parler, silhouette mobile à peine visible dans l'obscurité, sauta à pieds joints à côté d'eux, puis s'élança dans une trouée des buissons qui bordaient la route. Des points noirs, sur le versant neigeux au-delà des buissons, se transformèrent en une douzaine de soldats armés de lasers. Cinq d'entre eux se regroupèrent silencieusement autour de Duncan et Lucille et les guidèrent sur un sentier couvert de neige qui s'écartait de la route. Le reste du détachement courut à découvert en direction du bas de la colline pour se fondre dans un bosquet sombre. Après avoir parcouru une centaine de mètres, les cinq hommes de leur escorte se mirent en file indienne, deux devant, trois derrière, Burt Malley au milieu, suivi de Lucille, puis de Duncan. Ils arrivèrent bientôt devant une échancrure de roches noires surmontée d'une saillie où ils s'arrêtèrent pour écouter passer derrière eux d'autres véhicules piégés.
« Des leurres, rien que des leurres, » chuchota Burt Malley. « Nous brouillons toutes les pistes. Ils sont convaincus que nous fuyons aussi vite que possible. Au lieu de cela, nous allons tranquillement non loin d'ici. Plus tard, nous reprendrons lentement la route. À pied. »
« L'inattendu ?»
murmura Lucille.
« Et Teg ?» demanda Duncan dans un souffle.
Burt Malley se pencha à son oreille pour chuchoter.
« Ils ont dû la voir. »
Il y avait une tristesse infinie dans sa voix.
« Descendez par là, vite !»
leur dit un des membres de leur escorte. Ils se glissèrent dans l'échancrure étroite. Quelque chose grinça non loin. Des mains les guidèrent sous un passage couvert. Le grincement se reproduisit derrière eux.
« Occupez-vous de cette porte !» dit quelqu'un.
La lumière jaillit autour d'eux. Duncan et Lucille virent qu'ils se trouvaient dans une vaste chambre richement décorée et apparemment creusée dans le roc. D'épais tapis couvraient le sol. Ils avaient des tons pourpre et or, avec des motifs vert clair en forme de créneaux ininterrompus. Un gros tas de vêtements gisait en désordre sur une table près de l'endroit où Burt Malley discutait à voix basse avec un homme de l'escorte, un grand gaillard au front haut et aux yeux d'un vert perçant. Lucille tendait une oreille attentive. Les mots étaient intelligibles, ils se rapportaient à la manière dont les gardes avaient été postés, mais l'accent de l'homme aux yeux verts était nouveau pour elle. Fait de cascades gutturales et de consonnes télescopées avec une vélocité surprenante.
« Sommes-nous dans un non-espace ? »
demanda-t-elle.
« Non, » répondit une voix derrière elle avec le même accent. « Mais nous sommes protégés par les algues. »
Au lieu de se tourner vers celui qui avait parlé, Lucille leva les yeux vers le tapis d'algues jaune-vert qui recouvrait le plafond et les murs. La roche noire n'était visible qu'en quelques endroits à proximité du sol. Burt Malley interrompit sa conversation pour s'adresser à elle.
« Nous sommes en sécurité ici. Ces algues sont spécialement sélectionnées pour un tel usage. Les détecteurs de vie sont incapables de déceler autre chose que la présence végétale qui nous entoure. »
Lucille pivota sur un talon pour examiner la salle plus en détail. Elle remarqua notamment le griffon Harkonnen incrusté dans la table en cristal, les tissus exotiques dont les fauteuils et les canapés étaient tapissés, et le râtelier d'armes contre un mur, où se trouvait une double rangée de lasers de combat dont elle n'avait jamais vu d'équivalent ailleurs. Leurs canons étaient longs et évasés en forme de cloche à son extrémité, et leur sous-garde dorée se terminait en spirale. Burt Malley avait repris sa conversation avec l'homme aux yeux verts. Il parlait de la manière dont il devait se déguiser. Elle continua d'écouter avec une partie de son attention tout en étudiant soigneusement les deux autres membres de l'escorte qui demeuraient dans la pièce. Leurs trois compagnons s'étaient éclipsés discrètement par un passage étroit qui s'ouvrait à côté du râtelier d'armes et qui était dissimulé par une lourde tenture de fils d'argent miroitant. Elle remarqua que Duncan l'observait attentivement pour noter ses réactions, la main sur la crosse du petit laser passé à sa ceinture.
« Des gens de la dispersion ?» se demanda Lucille. À qui va leur loyauté ?
Sans rien laisser paraître sur son visage, elle se rapprocha de Duncan et, dans le langage des doigts sur son bras, lui fit part de ses soupçons. Ils regardèrent tous les deux Burt Malley.
Trahison.
Elle continua d'étudier ce qui l'entourait. Était-il observé par des yeux invisibles ? 9 brilleurs éclairaient la pièce, chacun entouré de son halo d'illumination intense qui contribuait à créer une lumière unie à l'endroit où Burt Malley discutait toujours avec l'homme aux yeux verts. Une partie de cette lumière venait directement des brilleurs flottants, tous réglés dans un riche vermeil, et le reste était réfléchi moins crûment par les algues. Le résultat était une absence d'ombre presque totale, même sous les meubles. Les fils d'argent miroitants du rideau qui masquait l'entrée s'écartèrent pour livrer passage à une vieille femme. Lucille l'observa longuement.
Elle avait un visage ridé aussi noir que du très vieux bois de rose. Son profil crochu était étroitement encadré par des cheveux raides et gris qui lui tombaient presque aux épaules. Elle portait une longue robe noire brodée de fils dorés représentant des dragons. Elle s'immobilisa derrière un canapé sur le dossier duquel elle posa une main aux veines saillantes. Burtsmali et son compagnon interrompirent leur conversation.